Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 10 novembre 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV, plein de trucs.
Et suivi de...
Ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires, de l'infirmerie et de la maternité.
Et ensuite,
à 15h, qui c'est qui m'a foutu le programme de l'autre côté? Ça n'est pas sympa. Je ne sais pas, à 16h non plus, à 17h Big Bang, 18h Vie d'Ordure, 19h Happy Road, 20h La Cité Expérience, 21h39 Love. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Bonjour du sport.
Bonjour.
Merci, micro bleu, jaune fonctionne. La nouvelle...
Bien vu.
J'espère que vous appréciez la nouvelle maquette de notre conducteur, un conducteur qui ne fait cette semaine que 43 pages. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que la semaine dernière on n'était pas là et que la semaine prochaine on n'y est pas, donc on tasse un peu parce qu'on est en pleine rentrée littéraire et qu'on a plein de trucs. Et en plus on va même louper, vous savez quoi, le festival des Inrecuptibles. Quelle horreur! It was the beginning of a new London underground. Remy Nicol, Na Knightley, programmé aux Arocs 2008. Sometimes I like to skateboard with my friends through London in the dark. It's silly that you get upset by these things that I do. You have to accept that this is me and this is who I love to be. I'll never change for anyone, especially not, especially not you. But it is your fault if we get kicked out embarrassingly. Why'd you have to go and do all those things that you do? Don't you know I love you so I really don't have to let you go. But if it carries on like this, I'm gonna have to. You don't have to be intimidated by me. I swear I won't fight. So if you can't take me for all that I am, I have to say na-nighty. It's no big deal that your mum loves me more than you, and it's cute that it comes easily for me to do more kick-ups than you. You don't need to act all macho to prove that you're a man. I just need you to love me, and I know that you can. Bon, comme je le disais tout à l'heure en intro, un peu sur le speed, Remy Nicol, Na Knightley, qui était donc en concert lors du festival des Inrecuptibles qui a lieu en ce moment. Et je crois qu'elle n'était qu'à Paris, malheureusement. C'est bien dommage. Ceci dit, ça a lieu au nouveau bikini. Si vous voulez l'ancien bikini, si vous voulez vous payer les anciens locaux du bikini, c'est possible. Il est en vente actuellement et c'est aux alentours d'1,2 million. Si je pouvais me le faire prêter autant de sous, je serais bien content de récupérer un truc qui s'est fait légèrement souffler par la ZF. On a vécu tellement de bons moments, hein? Du sport, les émissions, au bord de la Garonne et tout ça.
Ah oui.
Ah, c'était grand.
Il est plongé dans une BD là.
Bon, allez, d'accord, ok, j'ai compris. On va commencer de suite les news, s'il vous plaît. Avec, pour commencer, l'événement de la journée. Et ben, sachez que Benjamin, le prodige de la tablette graphique, est en dédicace ce week-end sur le stand de Chiaopan. C'est au salon des éditeurs de Midi-Pyrénées, c'est à partir de 15h. Dans le salon des éditeurs de Midi-Pyrénées, c'est aujourd'hui et demain à l'hôtel Dieu Saint-Jacques. Vous savez, c'est sur le pont Neuf, c'est l'ancien hôpital en face du dépôt Semvat de bus. Enfin, c'est plus Semvat, on s'en fout. Benjamin, c'est l'auteur de Remember, Orange, One Day, et que nous avons reçu en direct dans cette émission le 17 mars dernier. Ouais, on en est super content, et d'ailleurs lui il nous a rendu hommage d'ailleurs au montage que t'as fait, Thomas, sur son blog. Et ne loupez pas son passage, parce que je rappelle qu'il est chinois. C'est pas comme s'il avait un pied à terre dans la région. Donc
si,
voilà.
Un peu quand même.
Un peu quand même, voilà. Donc on salue d'ailleurs l'équipe de Chiaopan qui nous a vraiment vraiment beaucoup aidé quand on l'avait reçu. Donc allez le voir, il est super sympa, il est extrêmement talentueux, c'est une claque graphique chaque fois qu'il sort un bouquin. Et là vous allez pouvoir vous rendre compte que la Chine, ça n'est pas qu'un pays où ils produisent des jouets, où il est question de toxicité et tout ça. Non, il y a quand même des produits de très très bonne qualité là-bas. Voilà. C'est ça ou parler de Seven Swords. Sinon, on a reçu l'info super tard, mais ça, c'est pas vraiment de la faute de la radio. C'est plutôt de la faute des organisateurs qui pourtant ont mon numéro de téléphone de portable et mon adresse email depuis plus de 10 ans. Et on avait plusieurs fois d'ailleurs fait des partenariats. Voilà, c'est sympa. Il s'agit donc du salon de la bande dessinée de Colomiers, 21e édition, qui a lieu le week-end prochain à Colomiers. Alors Colomiers, donc, c'est la cité dortoir au nord de Toulouse, sur laquelle il y a une partie des usines d'Airbus, donc ils ont beaucoup de taxes professionnelles sur place, donc ça leur permet de faire des événements. Ça n'a pas toujours été très heureux le festival. Il y a quand même, il se démarre pas mal, et c'est quand même pas évident de faire un truc, surtout en novembre, un moment où il fait un peu froid, dans un lieu, d'arriver à en faire quelque chose de festif, à faire quelque chose d'intéressant. En général, il y avait des petites parties musicales. Là, cette année, c'est le jazz qui est l'invité d'honneur donc de ce salon, et notamment c'est Jacques Ferrandez qui a créé la couverture en fait, l'affiche du festival. D'ailleurs il y aura des auteurs de la région et un peu d'autres comme Alain Garrigue et d'autres qui seront présents. Alain Garrigue, lui, c'est un régulier. Non, ça c'est les auteurs de l'exposition, donc je ne sais pas s'ils sont présents tous. Voilà, je découvre en fait ce dossier de presse en même temps que vous, pour une raison toute simple, c'est que donc on ne l'a reçu que ce matin. C'était pas très intelligent. Enfin bon, parmi les films présentés, une petite curiosité. Bon, Persepolis, évidemment, qui cartonne très fort au cinéma. Mais aussi La Bataille d'Alger, s'il vous plaît. Un film qui a très longtemps été censuré en France et qui est passé récemment sur France 2. Donc ça a été le premier film algérien. Et il a fallu qu'il raconte justement les événements d'Alger qui ont mené à l'indépendance. Et sur une musique d'Ennio Morricone. Pour petit point d'information, et il y a aussi un documentaire sur Robert Crumb qui est prévu. Voilà, ça vaudra, je pense, ça vaut le coup de visiter 16, 17, 18. Donc ça commence vendredi en soirée, si je me souviens bien. Et jusqu'à dimanche, c'est le 21e salon de la bande dessinée à Colomiers. excusez-moi. Je crois qu'il faut qu'on se mette en place. C'est l'heure des news.
And now, the news.
Bonjour, la semaine dernière, le supplément week-end n'a pu avoir lieu pour des raisons d'incident familial. Nous retrouvons notre reporter, notre envoyé spécial sur place, Thomas. Thomas, bonjour.
Oui, bonjour Xavier.
Donc Thomas, que s'est-il passé la semaine dernière qui fait que nous n'avons pas pu faire de supplément week-end ?
Eh bien, nous avons eu un heureux événement, l'équipe s'est agrandie. Il y a Monsieur du Sport qui a eu un troisième petit bambin. Qui s'appelle Virgile.
Qui s'appelle Virgile,
voilà. Voilà. Donc en référence à...
Oh, pas de référence, c'est le prénom qui est joli, d'ailleurs. Tout le monde l'aime bien.
Voilà. On applaudit Christine et Dusport donc, pour leur petit troisième, bravo. Voilà, la foule en délire et puis tout le reste. Encore nos plus sincères félicitations.
Ouais. D'ailleurs, elle m'a fait remarquer que si on prenait les initiales des prénoms des enfants dans l'ordre, ça ferait HMV. Désolé. Désolé, j'avais pas pensé à ça. Vous m'envoyez fort Marie.
D'accord. Retour à l'antenne. Allez, l'événement de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui sort et qui a traîné en longueur et qui sort mardi prochain ? Allez, je vous aide. Il faut penser au numéro du jour.
Numéro du jour.
13.
Ah. 13, le 18e, 19e
tome. Ah, le conducteur.
Dusport, mais. Dusport suit, lui, au moins. Voilà, il s'attendait à la blague. Pourtant, je l'avais noyé quand même, le sketch sur Dusport. Donc, DBD, l'actualité de toute la bande dessinée, consacre un dossier autour donc de la série de Jean Vanham et William Vance, l'adaptation non officielle de La mémoire est dans la peau. De La mémoire dans la peau, excusez-moi, en bande dessinée, sorti au départ. Dans Spirou, les deux premiers tomes, trois premiers tomes ont été prépubliés dans Spirou, à l'époque où il n'y avait pas encore Soda, c'était quand même un truc plutôt adulte, hein, les albums sont parus chez Dargo. Un hasard de l'édition, je n'expliquerai pas pourquoi. L'homme qui valait 11 millions d'albums, 13, c'est un blockbuster, un best-seller absolu, 500 000 albums à chaque nouveauté, et sachant donc que pour les deux prochains, les tomes 18 et 19, le 19 conclut l'histoire, sera dessiné par Vance, mais le 18 est un encart, puisque en fait il raconte en fait l'origine de 13 en lui-même, l'histoire en fait du personnage qui est derrière 13 dans sa jeunesse, est dessiné par Jean Giraud, alias Moebius. Alors éditorialement, je pense que ce sera plutôt dessiné par Jean Giraud, hein, parce que si c'était pas Moebius, il y aurait des petits extraterrestres et
des tripes petits hallucinogènes. Ouais.
Voilà. Alors DBD fait un gros dossier à 13, mais a chroniqué à part. Et voici ce qu'il titre.
Final pépère.
Voilà, alors c'est vrai que pour moi qui ai été lecteur de 13, j'ai trouvé que c'était poussif au bout d'un moment. Spats, le passé, irlandais, tout le reste, c'était un peu lourd. Pour moi ça s'arrêtait à 13 contre 1, parce qu'une fois on sait qui est le numéro 1, c'est pas la peine. Hein. Le complot, on sait qui est à la tête. C'est fini. Eh ben non, ils ont traîné en longueur. La question est la suivante. Peut-on se passer de l'album de Giraud pour lire le dernier volume de 13 ? L'astuce, affirme Jean Vanham, est que le lecteur doit lire les deux albums pour être sûr d'avoir tout compris. Bah non. Voilà, ils le disent eux-mêmes. Bah non. Donc voilà, pas très vendeur de leur côté. Mais d'un autre côté, le dossier est plutôt intéressant. Puisqu'il y a une triple interview de William Vance, Jean Giraud et Jean Vanham. Jean Vanham qui aussi, c'est un spécialiste Staga, hein. Il a fait par exemple Les Maîtres de l'Orge, Stanford. Il a fait Diva, il a scénarisé le film de Benex. Il a fait plein de gros blockbusters en bande dessinée comme Largo Winch. Bref, c'est vraiment l'un des scénaristes phares et qui n'a pas besoin d'écrire des bouquins pour vivre. Hein. C'est... Il est tranquille, mais en tout cas, donc on a un dossier qui est plutôt intéressant sur deux points. Je vais y revenir. D'abord, sur la carrière de William Vance, il faut savoir que quand le premier album était sorti, il ne vendait que environ 10 000 exemplaires, alors qu'à l'époque, il sortait une série de corsaires britanniques qui se passait au 18e siècle, un truc assez noir, assez sombre dans le dessin, assez épais, publié actuellement au Lombard, ça s'appelle Bruce G. Hawker. Mais aussi, il faisait les adaptations en bande dessinée de Bob Moran. Donc là aussi, il était habitué des très bons scénaristes, voilà, qui s'appellent Henri Verne. Une double vie d'aventure, oui. C'est la biographie par Daniel Fer. Fano, ça vient de sortir chez le Castor Astral. T'as 15 jours pour me le lire, Nus. Et voilà, ça s'appelle Esprit d'à propos et je reviens à 13 avec bien évidemment.
Il y a le Major Jones, j'ai vu.
Major Jones, c'est c'est quand même bon. Sauf qu'elle ne pourra pas.
Elle pourra plus avoir d'enfant. Voilà. On la prend dans le tome 2, je crois. Ou le 3.
Beaucoup plus loin.
Beaucoup plus loin, d'accord.
Tome 6 ou 7. Je crois que c'est dans le juste après l'épisode avec les Spats. Et il explique l'origine de 13. 13 est né à cause de Bruno Brasil. Et oui. Dessiné aussi par Vance et
scénarisé par
Greg.
Greg, voilà.
Et Greg était parti dans une aventure, c'était établir Dargo à New York, il a abandonné toutes ses aventures éditoriales et il vivait la bonne vie. Il essayait d'implanter l'éditeur aux États-Unis. Échec complet. Bon, c'était pas la première fois qu'ils essuyaient un échec de ce côté-là. Hein. Il y a un certain René Goscinny qui avait tenté de créer un magazine de télévision dans les années 50. À l'époque.
Ouais, mais Bruno Brasil, à l'époque, ça ressemblait un petit peu à un espèce de Corto Maltese, mais dans une période actuelle, quoi. C'est un petit peu le même genre d'histoire.
Oui, c'est. L'histoire, il a un bateau de plaisance, c'est un aventurier, voilà. Et puis voilà.
Seulement, tu vois, c'est Corto Maltese transposé dans la période moderne, un petit peu, on va dire, enfin, actuelle,
Un peu moins fantasmagorique et un peu moins basé aussi sur les croyances et tout.
Mais
le reste.
Tout à fait plaisant, quoi.
Ah oui, ça se lit très bien, la mise en couleur, tout en aquarelle est vraiment très agréable.
Ça paraissait dans le pilote à l'époque, quoi.
Et je me demande si c'était pas le journal de Tintin, tu vois.
Dans Tintin, ouais.
Je crois que c'était le journal de Tintin, et après, ils ont switché, ils ont proposé 13, mais ça a été prépublié dans Spirou et pas dans Pilote, pour une raison que je ne peux connaître. Et ils disaient qu'à l'époque, ils faisaient 40 000 Bruce Joker à l'époque. Et ensuite en 95, Dargo a poussé la série via une campagne SNCF et un film publicitaire. Donc ils sont grimpés à 100 000 avant ça, et ensuite ils sont arrivés à 500 000 à la nouveauté. Bref, un truc immense, énorme, digne d'un Astérix, c'est-à-dire un peu trop poussé. Ben vous verrez si la fin c'est pas un peu trop. Donc c'est le dernier, c'est dans le DBD, le dossier spécial 13. D'octobre.
L'émission ne me suffit pas de l'image, donc vous pouvez pas regarder les images
pas
de l'émission.
Encore.
Et par contre, il y a plein post-it jaune fluo qui ont été marqués pour faire croire que Xavier l'avait lu.
Merci. Mais non, mais il fallait préparer un petit peu. Et c'est vrai que j'avais prévu pour la semaine dernière un dossier spécial Goscinny. Tant pis, on n'aura pas le temps.
Je voulais rebondir justement, comme tu parlais de 13, ben ça tombe bien parce que j'avais prévu une semaine télé sur la 13e rue. Non mais qui fête ses 10 ans, et en fait mardi prochain nous avons programmé La Mémoire dans la peau en début de soirée, suivi à 23h15 de 13, Les secrets d'une saga. Avec un documentaire d'une heure donc sur la fabrication de cette saga 13 et l'interview bien sûr des différents intervenants. Voilà, tout ça c'est dans sur 13e rue donc mardi prochain, La Mémoire dans la peau et le documentaire d'une heure sur la série 13.
12h18, on continue malgré tout parce que t'avais de la revue de presse. Je le vois d'ailleurs juste sous tes fiches.
Ah bah tu fais pas de BD toi ?
Ben si, mais après.
Ah bon, bah ok, d'accord. Alors, ça attaque avec
Tu m'as dit une revue de presse et ensuite du comics.
Ah bon, d'accord, ok. Ça attaque avec le nouveau comic box, le numéro 49. Et alors là, 49, ça veut dire que le prochain numéro qui va apparaître en décembre, le numéro 50, ils vont marquer le coup, les gars. Ils vont vraiment marquer le coup. Ils marquent déjà le coup.
T'as des fuites.
Ils marquent déjà le coup sur ce numéro parce que il y a au niveau des BD. Une BD inédite d'une maison d'édition qui n'avait jamais encore été éditée, c'est Virgin Comics, avec une histoire pas trop mal, avec quelques petites désirs. Ça va chercher un petit peu du côté de l'Inde ancienne, on va dire, et une autre de
D'accord,
Mike
Cousingo. D'accord, c'est du mythologique, Mahabharata et tout
ouais,
ça.
Ouais. Et une autre du Silver Surfer de Stan Lee et Mike Wieringo qui vient de décéder il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui est vachement rigolote parce qu'en fait c'est le Silver Surfer qui fait chier tout le monde. Galactus il vient chercher Stan Lee et puis il vient lui demander putain tu pourrais pas le dérider, il y en a marre, fait chier tout le monde dans le cosmos et tout avec ses questions philosophiques.
Je t'ai cassé.
Et donc Stan Lee se voit embarquer sur le surf. Et c'est vachement rigolo. Enfin bon, c'est très très bien. Au niveau des interviews, on a Alan Davis
ah ouais
quand même, ouais. L'homme qui a fait Captain Britain, entre autres, Marvel Man et beaucoup d'autres. Il y a également Jim Lee, il y a également Robert Kirkman, il y a surtout l'article qui ouvre pratiquement, c'est-à-dire le premier article de Comic Box, consacré bien entendu à l'événement dans le monde des comics et surtout à la fin de cette fabuleuse saga qui est Civil War chez Marvel, à savoir la mort de Captain America.
Les bollocks.
Et on a pu suivre cette mort en direct dans le Marvel Icons mensuel numéro 30. Non, je l'ai pas. Je ne l'ai pas au niveau
Des... Il y avait des rumeurs Captain America comme quoi il sortait avec une fille. C'était dans le premier tome d'Alias.
Ah ouais, mais bon.
C'est excellent. Ouais. Excellent.
Alors, il y a également le nouveau Astonishing X-Men qui est paru. Je voulais vous en parler juste parce que, bon, Astonishing X-Men, c'est quand même une déclinaison du titre X-Men, mais elle a complètement dévolu à Joss Whedon, le créateur de Buffy, Angel, Firefly, Serenity. Et toute la bande.
Oui, c'est vraiment des séries de référence.
Il faut savoir que depuis le numéro 28, du côté éditorial, ils ont du mal à suivre. Eh bien, l'édition française fait pareil, et donc il y a plus la suite de l'aventure des Astonishing X-Men, mais c'est carrément une histoire en 5 parties. Donc pendant 5 numéros, il n'y a pas de Joss Whedon à l'écriture. On n'y perd pas au change, de toute façon, hein, avec cette histoire en 5 épisodes, donc en 5 mois, de le champ de guerre du Phoenix. Pas mal, hein, vraiment bien. Il y a également les autres histoires X-Factor, le New Excalibur, création d'Alan Davis au départ, hein, Excalibur, et Exile, que moi je trouve vraiment très très bien, hein, avec cette histoire de monde parallèle et tout, de réalité changée, c'est vraiment très bien tout ça. Donc, nouveau Astonishing X-Men. Et la nouveauté quand même, c'est sorti hier, hein, c'est-à-dire le 9 novembre, on est le 10 aujourd'hui, hein, c'est une nouvelle déclinaison dans l'écurie Marvel, c'est Marvel Heroes, qui va raconter eh bien ce qui va se passer après Civil Wars au travers d'histoires complètes ou plus ou moins complètes, hein, il y aura toujours les petits trucs à suivre, et il y a quand même du beau linge avec Brian Michael Bendis qui signe quand même 2 scénarios, hein, en ce qui concerne les nouveaux Vengeurs et en ce qui concerne Illuminati qui est situé à la fin et qu'on avait déjà pu découvrir d'ailleurs en avant-première dans Comics Box il y a quelques mois de cela. Donc le Marvel Heroes, c'est le numéro 1. Il est sorti hier, hein, c'est toujours aux alentours de 4,60, 4,90 le numéro, et tout ça donc disponible dans les librairies. Voilà pour le rayon BD, Xavier.
Ok, on va enchaîner ben justement avec les sorties. On va commencer avec une sortie particulièrement noire et sombre qui vient de sortir dans la collection adulte Big Kana. Il s'agit de Shohei Manabe, Ushijima, l'usurier de l'ombre. Le premier tome vient de sortir dans une collection poche et franchement...
The Clack.
Ah ouais, The Clack. Vous les découvert, vous ont mis rouge avec votre banquier. Vous avez un petit peu tiré sur toutes les cartes de crédit. La Cofinograve, la Medialis, la Ororo, la tante a beaucoup au clou. Vos parents et vos amis tapent à votre porte comme des huissiers de justice. Bref, vous savez plus où encore emprunter de l'argent. C'est encore possible. Au Japon, il suffit d'aller chez un Yamikin comme Ushijima. Le protagoniste de cette série, il a un bureau avec une charmante hôtesse, vient de recruter son troisième assistant, Takada. Une petite officine qui paie pas de mine et qui peut instantanément vous prêter des petites sommes. Environ 50 000 yens, mais sur la publicité on met 1 million de yens. Bon, 50 000 yens ça fait quand même 300 euros. Avec un taux légèrement prohibitif, 50% sur 10 jours. Ah ben oui, mais c'est de l'argent qu'on peut toujours emprunter, hein, ce qui n'a pas de prix quand on est surendetté. Un personnage qu'on commence par nous montrer froid mais finalement sympa, puis cynique mais sincère, et en fait un très très gros salaud. Il n'y a pas à dire, parce qu'un Yamikin a beau avoir un bureau, il n'a rien d'officiel. Les fonds de Ushijima, par exemple, lui ont été prêtés par une riche astrologue via les Yakuza, donc qui fait partie du crime organisé, institutionnalisé, mais jamais inquiété par les autorités. Et ça, Takada le découvre dès son premier jour, quand il voit un des emprunteurs séquestré à poil dans le bureau, et l'arrivée des femmes au foyer en manque de fric, qu'Ushijima appelle ses esclaves. Mais finalement, qui sont les victimes des Yamikin ? Chaque histoire raconte le destin d'un de ces surendettés, mais aussi de leurs contradictions financières. Et là, on découvre la faillite d'une société basée sur la réussite sociale, sur les apparences et un respect irrationnel d'une hiérarchie castère. Des gens qui jouent et qui jouent encore au pachinko, vous savez, ces machines à sous, ces flippers verticaux où on peut, on gagne des lots et on va revendre ces lots à l'arrière dans une boutique factice pour pas dire que c'est des jeux d'argent, tu vois. Alors qu'ils savent pertinemment qu'ils finalement ils y sont perdants et pas comme à la Française des Jeux. Non, non, rapport 1 sur 20. Des femmes ordinaires qui préfèrent noyer leurs soucis dans des achats de vêtements de luxe, dilapidant le salaire de leur mari qui ne fait jamais ses comptes. D'autres qui vivent largement au-dessus de leurs moyens par frime ou pour garder un rang social supposé. Bref, une situation financière qui n'aurait jamais dû basculer s'ils avaient été soutenus, conseillés, aidés, écoutés. Au lieu de cela, ils sont tombés dans l'irresponsabilité financière et l'exclusion de la société de consommation. Ces esclaves de leurs dettes sont les jouets des Yamikin, qui trouveront toujours un moyen de se payer sur leur tête, d'avancer encore le remboursement de leurs intérêts, ce qui en fait de très juteux investissements, corvéables à merci. Le glauque est là, quand on commence à tomber dans le trafic bancaire, la prostitution, la revente de drogue, pas pire. Visiblement, le business est juteux car Ushijima est loin d'être le seul à exercer cette profession de l'ombre. La seule différence avec le métier de banquier, c'est qu'il faut parfois un petit peu montrer les crocs. La criminalité de rue est très faible au Japon, mais la criminalité organisée est parfaitement intégrée dans la société. Ushijima, usurier de l'ombre, le premier tome, vient de sortir, traduit en français chez Big Kana. Une manga qui vous mettra aussi mal à l'aise que les agios de vos découvertes, dessinée et scénarisée par Shoei Manabe. Et ça sent franchement le vécu. Thomas, lui, il est en train de regarder et...
Ah ouais, c'est... Le trait est vachement nerveux et...
Enfin, à mon avis, il le fait avec Manga Studio, mais...
mais il y a vachement du sexe crade, il y a... Ouais, non, c'est assez saisissant. Hein.
Ça fait peur. Ça fait royalement peur quand même quand on le lit. On va au scénario, Jean-Yves Delitte au dessin, Thanatos, dans la collection graphique chez Glénat. Décembre 1913, l'Europe fait cracher les forges, les marchands de canons fournissent en tout calibre les États. Bref, la Grande Guerre semble proche. Face au président Raymond Poincaré, les socialistes, menés par Jean Jaurès, appellent au pacifisme afin d'éviter ce qui pourrait bien être une immense boucherie sous les lazzis de la droite revancharde qui voudrait bien mettre la pâtée à la Prussie, pardon, à l'Allemagne, pour laver l'affront de 1870 et récupérer l'Alsace et la Lorraine. Dans l'ombre, un esprit criminel attise les braises. Un maître du crime, capable de prendre n'importe quelle identité, avec un plan diabolique. Celui de devenir l'homme le plus riche du monde, car il y a de quoi se faire du beurre à vendre des canons. Excusez-moi, je fais de l'anachronisme dans la citation littéraire. Qui est donc cet ignoble individu qui veut monter une fortune en tuant des millions d'hommes ? Thanatos, un génie du mal absolu, dont les moyens et l'intelligence semblent sans limite dans l'ignominie. Mais comment compte-t-il exécuter son sinistre plan ? Et est-ce que le célèbre commissaire Bernin de la police judiciaire et Louis Victor, détective de la célèbre agence Fiat Lux, vont-ils pouvoir réussir à faire capoter cette monstrueuse affaire ? Après les nouveaux tsars, Jean-Yves Delitte illustre à nouveau dans les eaux troubles du polar politique, mais cette fois-ci début du siècle. Didier Convard, début du siècle dernier, pardon, excusez-moi.
Je corrige.
Didier Convard écrit dans l'esprit des feuilletons d'aventure qui paraissaient dans les journaux. On pense bien évidemment immédiatement à Fantomas, surtout à cause du titre. Avec un réel plaisir à faire revivre la belle époque, les engins rivetés, les favoris d'avant-guerre. Entre la Brigade du Tigre et Adèle Blanc-Sec, nous sommes dans une histoire au rebondissement palpitant, sous une reconstitution graphique, mais qui s'éclate à créer des engins post-steampunk. Cela peut sembler facile de créer des machines infernales à la H.G. Wells avec le recul. La précision graphique de l'album tue cette fausse impression. Ce qui n'empêche pas le dessinateur de s'éclater et multiplier les clins d'œil. Ainsi, on lira discrètement un hommage à Maître Richard Malka, scénariste de bande dessinée, mais surtout défendeur de la liberté d'expression dans le procès Charlie Hebdo sur la caricature de Mahomet, c'était en février dernier. Un clin d'œil dans un encart publicitaire au responsable du service presse de Glénat en danseuse du French Cancan, s'il vous plaît. Et le summum, le gène de la bêtise trouvé chez les auteurs de l'association. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur actuabd.com. C'est Charles-Henri qui a repris justement les infos et qui a enquêté là-dessus.
Charles-Louis,
pardon. Enfin, j'avais trouvé les trucs dans l'album, c'est lui qui a repris derrière, donc c'est de bonne guerre, surtout ça fait du bien. Ah, l'association qui s'en prend plein la gueule. Ah. Bon. Didier Convard, Jean-Yves Dolite, Thanatos, le tome 1 chez Graphica Glénat. Le tome 2 devrait sortir en février, donc ça va aller relativement vite. Et c'est donc un maître du mal, un génie feuilletonné, ça va être intéressant. Tu es sur la bonne page, Thomas. Et je rappelle que demain, d'ailleurs, à propos de Première Guerre mondiale, on est le 11 novembre. Il y a la régie qui me bip, excusez-moi, puisque il est 12h31, donc c'est la pause publicitaire.
Et au kilo du supporter violent et raciste, le cours du PSG mérite une enquête de l'autorité des marchés financiers.
Ça, c'est du sport. Tous les samedis, 13h sur FMR.
Motherfucker, j'étais en train de virer Jean-Pierre Gaillard.
Viens là, écoute. Fuck off.
Allez.
C'était bien les crises de rire hein, sur cet enregistrement. Paddock, les coulisses de la F1. Le premier tome vient de sortir chez Monde Ouest. Pat Perna au scénario, Juan au dessin. Enfin, ils sont pas très concernés. D'ailleurs, Thomas, tu peux passer le bouquin du sport. Je suis sûr qu'il sera ravi du sticker qu'il y a dessus. Il n'y a pas très bien marqué qu'il y a tome 1. Ah ouais.
Commandé par turbo.fr.
Voilà, ça casse un peu, mais bon. Et c'est chez Monde Ouest. Ah, la Formule 1. Qu'est-ce qu'on se faisait chier à regarder Michael Schumacher, loin devant tous les autres et gagnant son cinquième championnat, sans aucune surprise, et en marche arrière sur sa Ferrari, hein, pour faire durer un petit peu le suspense. Heureusement, depuis, ça a un petit peu bougé. Par exemple, depuis l'arrivée de l'équipe Broken Arms, la seule équipe du championnat que les bookmakers sont interdits de parier dessus, car leurs chances de victoire sont plus ridicules que celles de Paul Belmondo. C'est dire... Ouais, je me suis un peu éclaté à rédiger mon conducteur. La seule équipe à finir les saisons avec des points négatifs. C'est sous les commentaires sportifs lénifiants qu'on suit le destin mécanique des pilotes Aldo Vapapiano et Jean-Michel Fringant. Gros clin d'œil évidemment à Michel Vaillant qui s'en prend grave pour son grade pour le coup. Celui de casser de la mécanique de précision, de planter dans le gravier ces caisses qui valent quelques millions d'euros et de répandre leur transmission dans leur dans une gerbe de pièces détachées sur la piste au ralenti. C'est superbe ces images sportives. C'est plutôt vidéo gag que Claude Lelouch en Formule 1. Claude Lelouch, seul Thomas peut comprendre le gag. Le problème quand on fonce à 300 km/h, c'est que les gags se cachent très très vite. L'album manque parfois un petit peu d'imagination, puisque le coût des contrats de deux messmakers est ressuscité en juteux contrats publicitaires avec un baron de l'industrie. Mais on le lit avec plaisir. On songe à Joe Bartim pour le réalisme des onomatopées et à Jean Alési pour la facilité à terminer sa course dans le gravier. Le rythme de gag
à fond, tout droit.
Et gravier. Le rythme de gag en une planche et le graphisme gronné trahissent une volonté éditoriale de rafler la mise dans les rayons de supermarché. Mais le produit a quand même une qualité indéniable. Une lecture agréable et rigolote pour les inconditionnels des sports mécaniques. Il va bien marcher, mais sans toutefois avoir droit au podium sur les scores de vente. Paddock, les quiz de la F1, théoriquement, c'est le premier tome. Pat Perna au scénario, Juan au dessin, c'est chez Vent d'Ouest. hier, je suis content, j'ai réussi à traîner Thomas et sa copine Sabrina au Toulouse Carnet, la réunion des blogueurs toulousains. Ça t'a plu ?
Ouais, c'était cool.
En plus, on a battu Bloc sur Garonne, on était 13 contre 12. Enfin bon, c'est autre chose. Tout ça pour parler de blog en bande dessinée.
Oh là là, la transition.
Ah bah oui, un peu obligé quand même.
Bon, ben aujourd'hui on va parler... Alors attends, il faut attendre que le morceau commence.
Non, le lecteur CD veut pas.
Ah d'accord, bon c'est pas grave. Eh ben on va quand même parler de l'album de Maliki, tome 1, Maliki broie la vie en rose. Et ça raconte les aventures de la vie de Maliki, une jeune fille sexy aux cheveux roses, accompagnée de ses deux chats, Fëanor et Fleya. Et on voit son déménagement en Roubaix, ses mésaventures au supermarché, l'arrivée de son lave-vaisselle Clovis, ses voyages, mais aussi Maliki parle de son évolution graphique et de sa difficulté, notamment à concilier création et vie privée. Puisqu'il faut savoir un truc assez original, puisque Maliki se dessine elle-même en fait, il n'y a pas d'auteur, c'est Maliki qui s'autodessine comme c'est expliqué dans les premières pages de l'album.
Il y a des rumeurs.
Ah ben, évidemment, pour les salons de BD, il faut quand même quelqu'un qui dédicace. Donc, l'alter ego, un esclave, d'ailleurs.
Enfin bon, vas-y, je t'ai coupé.
Voilà. Alors, bon, Maliki, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est quelqu'un qui fait... Bon, on va dire que c'est elle, hein. On va reprendre le postulat de la BD. Elle fait partie, avec son webcomic, maliki.com, de cette génération de dessinateurs qui se sont surtout fait connaître sur Internet et qui ont une horde de fans qui attendent comme une nouvelle relique le nouveau billet, le sacro-saint billet hebdomadaire pour certains d'ailleurs, pour Maliki. Ça fait partie de cette génération.
C'est là où on bénit les flux RSS, cette technologie qui permet de ne pas aller direct sur les sites mais d'être au courant comme si c'était un mail qui surgit.
Sabrina, regarde, il y a un nouveau billet de Maliki. J'arrive.
Hé, Chantal, t'as vu, il y a Boulet, il vient d'en sortir un nouveau. Ouais, je sais, je l'ai déjà lu, merci.
Voilà, donc on a cité quelques-uns, le Boulet, mais également Laurel, Melaka, les Chikou, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et d'ailleurs, tu viens de citer pas mal de professionnels, et Maliki donc se lance dans la BD professionnelle grâce à ce blog.
Exactement. Et donc, ce qu'on peut, on est vachement surpris de toute façon, puisque déjà, quand on voit le rythme de parution de ces billets, un par semaine, quand même, tous les mardis soirs, avec des billets qui sont extrêmement longs, en couleur, et extrêmement travaillés, notamment sur Photoshop, tu te dis, cette personne n'a pas de vie privée, quoi. Elle dort pas. Surtout qu'elle a un métier à côté. Donc voilà, c'est assez effarant. Et c'est ça aussi qui donne, j'inspire vachement si t'es graphiste, etc. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui a au début qui travaillait dans le web en fait, et c'est ça qu'il a exercé justement sur la compo, etc. Elle en parle aussi dans certains billets. Et donc voilà, alors on se posait la question, est-ce que les strips, les comic strips allaient être remaniés, est-ce qu'il y aurait des inédits? Ben en fait, pas du tout et pas du tout. Puisque les inédits, ben non, en fait, c'est une compilation des meilleurs billets qui ont été publiés sur son blog. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, ben, il n'y aura pas de surprise. Hein. Mais bon, même s'il y a quand même le plaisir de relire, les aventures de Maliki.
Non, et puis c'est plus confortable quand même sur écran.
Oui, tout à fait.
Il
n'y
a pas photo.
Ben, c'est la satisfaction aussi d'avoir l'objet qu'on peut trimballer partout avec soi et puis pas nécessairement avoir besoin de se crever les yeux sur un écran. Donc, ça, c'est tout à fait louable. Et. Donc les billets privilégiés sont surtout les billets qui sont faits à la tablette graphique, sur Photoshop. Il y a quelques aquarelles, quelques dessins au crayonné, pas suffisamment à mon goût. Et puis évidemment il y a aussi les strips les plus récents qui sont également privilégiés. On va pas s'en plaindre non plus, puisque même si l'intérêt du bouquin c'est de montrer la progression graphique de l'auteur, puisqu'on voit vraiment une grosse différence entre les premiers billets qu'il avait publiés quand il avait commencé et les derniers, c'est ça aussi qui est intéressant, mais quand même
oui, là-dessus c'était très impressionnant pour ceux qui suivent justement. Et le blog est vraiment un exercice d'écriture. Moi, j'en tiens. Je sais ce que je m'améliore de mieux en mieux à écrire mes chroniques. Ça, vous pouvez le voir. Et c'est vrai que pour Maliki, c'est putain de flagrant par rapport au début. Hein.
Voilà.
On reconnaît pas le style.
Ça, c'est ça qui est intéressant. Alors, bon, le style graphique, c'est plutôt d'inspiration un peu manga. Elle utilise beaucoup les ressorts visuels comme les éléments trop kawaii, trop mignon, trop mignon. Techniques de, comment on dit, de description SD, super déformée, c'est avec grosse tête, avec petit corps, etc. Il y a beaucoup de dessins assez amusants comme ça. Surtout que, bon, évidemment, comme un billet sur deux traite de ses chats. Donc, évidemment, tout ce qui est chat, tout ce qui est mignon. Donc, voilà.
Neko,
oui, je me rappelle quand j'avais mes petits chats, ils étaient tout mignons, tout petits. Bon, voilà.
C'est le truc qui fait craquer les filles, ça.
Voilà. Beaucoup de mecs aussi, puisque bon, tous les geeks otaku, ils sont quand même une dose de kawaii dedans. Alors moi j'étais super fan de ce qu'elle faisait sur le billet, c'est pour ça que je vais me permettre quelques petits bémols en fait, mais rien de bien méchant de toute façon. Moi je trouve que les billets qui avaient tout le loisir de s'exprimer, de vivre un petit peu sur le format de la hauteur, puisque ce sont des billets, on faisait défiler avec la roulette, là divisés en planches et surtout compressés dans un format de format papier où à côté de la marge, ben, y a plus rien, il n'y a pas de blanc qui permettent de faire respirer justement les billets sur internet. Là, on voit que c'est un peu compressé et ça, on voit que les dessins ils respirent un peu moins. Donc ça, c'est, on a l'impression que ils en sont un peu à l'étroit. Bon, ça c'est un petit défaut de compo. Aussi, alors la particularité de ces billets, c'est qu'elle fait très peu appel au code de la bande dessinée traditionnelle, c'est-à-dire avec des cases, avec des bords bien délimités. Et c'est vrai que là, on a un peu l'impression que ça flotte. Mais après c'est
non, justement là il y a des cases.
Oui, là il y a des cases, c'était un mauvais exemple. Alors attends, je vais retrouver le billet avec le génie.
Oui, je le connais.
Voilà. Bon, alors, ça c'est vrai qu'on a.
Et encore, elle a recadré énormément, tu vois.
Voilà.
Elle disait qu'elle a pas mal retravaillé, notamment les premiers billets, justement, pour raison de cohésion graphique.
Voilà. Là où l'auteur est vraiment pas du tout mauvaise, mais pas du tout, c'est sur les aquarelles. Et là aussi, on peut aussi regretter qu'il n'y en ait pas assez, puisque bon, tout ce qui est. En plus, il y a quand même quelques exercices de style avec des petites cases des albums, un peu comme le Mister E, Mister O de Trondheim, qui est tout à fait sympa. À un moment donné, je sais plus à quelle page il est, je voulais le montrer à mes collaborateurs, mais bon, c'est pas grave, on retrouvera tout à l'heure.
Les auditeurs n'ont pas la couleur.
Ouais, voilà. Et bon, c'est vrai que, bizarrement, là où certains billets utilisent les codes plus traditionnels labellés, c'est là que ça passe mieux, enfin je trouve, alors que quand elle utilise des effets plus photoshopés comme les halos, les incrustations de calque, etc., ça, on a l'impression que c'est vraiment un rendu sur la page n'est pas le même que sur internet, et tu te dis, bah, tu peux regarder un peu plus en détail en t'approchant et tout, et là tu vois, bon, voilà. Et en plus, surtout qu'elle utilise aussi parfois le trait crayonné qu'elle scanne directement, qu'elle ne retravaille pas. Mmh. Encore une fois, sur un billet, sur un écran, ça passe beaucoup mieux que sur une page. Mais bon, ça, c'était des petits bémols
Enfin, de toute façon, elle utilise tout plein de techniques différentes, justement. C'est ça qui
voilà. Donc, c'est un album, donc évidemment, avec les aventures qui se relisent avec énormément de plaisir. Si vous aimez les chats, bon, si vous aimez pas les chats, bon, ça, il y a de quoi vous rebuter. Mmh. Si vous aimez tout ce qui est mignon, tout ce qui est. Bien vu, c'est bon, évidemment c'est extrait d'un blog, donc le principe du blog c'est de faire des billets sur une toute petite anecdote, un tout petit prétexte qui permet de faire d'élaborer des petites considérations. Tiens, il y a des mouettes qui viennent grappiller mon pain, c'est comme je me crois dans un concert d'André Rieu. Donc bon, après c'est pour une BD traditionnelle, on se dit bon, le prétexte est un peu légende, mais c'est pas grave, ça.
Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on a vraiment du mal à chroniquer à partir de là, parce qu'il y a eu cette prépublication, ouais, dont on a été fan. Quelque chose qui manque dans la bande dessinée, la prépub.
Voilà. Et encore un dernier détail, on aurait aimé avoir un peu plus de l'équivalent des bonus DVD, si vous voulez, puisque là en fait, en guise de bonus, on a surtout des fanarts d'autres dessinateurs sur le personnage de Maliki, et il n'y a pas assez, par exemple, de mots de la semaine à l'équivalent, puisqu'il faut savoir que sur son blog, Maliki écrit un petit mot de la semaine explicatif qui témoigne un peu de son humeur du moment. Tiens, c'est parce que j'ai fait ce billet, parce qu'il m'est arrivé ça, etc. Tout à fait frais et sympa à lire. Et là, on regrette un petit peu qu'il n'y ait pas ces textes explicatifs, un peu ce que fait Benjamin aussi dans ses albums. Mais à part ça, c'est tout à fait extra. Bon, moi, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à relire des billets que j'avais déjà relus plusieurs fois déjà sur son site, et c'est vraiment très bien. Donc Maliki, tome 1, broie la vie en rose
avec un vernis sélectif d'ailleurs,
super objet en fait.
Ouais, ça ressemble en fait au manga qui était édité par Glénat dans les années 90. Ouais,
tout à
voilà,
fait.
C'est un format comics assez épais, 180 pages environ.
Ah oui, il y a beaucoup de pages. Voilà, vous en avez quand même. Ne se lit pas en 10 minutes. Hein.
Voilà, ça tombe bien parce que du sport, lui, il lit pas sur les ordinateurs et tout ça. Et du sport, je crois qu'il a du comics.
J'ai oublié de dire que c'était édité chez Ankama Éditions.
Du sport, t'as du comics, il me semble.
Ben non, je l'ai fait avant.
Tu l'as fait avant, d'accord. Ok, ben, je n'aurais pas
Merci,
dû
Xavier.
Éjecter mon CD. Voilà, ça tombe
Encore
bien.
Encore un qui écoute.
Ouais.
Non, tu m'avais dit une revue de presse et après des trucs.
Moi, tu suis ta propre émission, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, oui, je sais. Mais ça tombe bien parce que j'ai deux bouquins à parler qui sont tombés coup sur coup aux éditions nouvelles. C'est des analyses autour de Tintin. Bon, je rappelle qu'il y a un gros conflit entre les Tintinologues et la Moulin Sarr et ça, le nouveau studio RG, etc. Comme quoi, ils n'ont pas le droit de reprendre à l'intérieur. Des cases de Tintin, ils ne peuvent pas. Alors on leur interdit, non, c'est non. Nick Rodwell, il a dit qu'il fallait contrôler l'image de Tintin, donc c'est non. Et le premier à avoir souffert, ben, c'est Albert Algou, qui, dans son album sur les Dupont et Dupont, ben, il a dû en fait faire recopier des cases par des amis, dont Jean-Paul Goud, des trucs comme ça, donc ça donnait des trucs complètement délirants. Et ben là, on a deux études. Ben alors, c'est des pavés, hein. C'est du texte pur, sans images.
Ça va te changer.
Assez technique. Le premier, c'est une réédition des Bijoux Ravis de Benoît Peters. Benoît Peters, c'est un scénariste de bande dessinée qui fait notamment avec Scotton les cités obscures, voilà, Urbis et tout le reste, Bruxelles. Benoît Peters donc est un grand spécialiste autour de Tintin et aux impressions nouvelles.
C'est l'un des précurseurs de la nouvelle ligne nucléaire dans les années 70, quoi. 60,
exactement.
70, quoi.
Exactement. Mais c'est un scénariste et aussi un universitaire, un très très bon analyste de ce côté-là. Lire Tintin, les bijoux ravis. Alors, faut savoir que il faut lire ce bouquin quand on a les bijoux de la Castafiore à côté. Et je n'ai aucun Tintin chez moi. Ça tombe mal. Enfin, si j'en ai un, c'est Tintin au pays des soviets, mais ça, c'est mes sensibilités politiques qui m'obligeaient à l'avoir. Mais sinon, donc voilà, on est un petit peu coincé. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont pris l'un des derniers Tintins, et c'est considéré comme un Tintin complètement atypique, parce qu'il ne suit pas du tout la trame d'une aventure. Les bijoux de la Castafiore, c'est du théâtre de boulevard. Il y a côté rue, côté cour.
Ouais, parce que ça se passe pratiquement entièrement dans le château, quoi.
Exactement. Et on découvre l'intérieur de Moulin Sarr. Alors, il y a plein de points qui sont très intéressants. Et justement, le seul. Au bout d'un moment, il y a une interview de la Castafiore par les journalistes de télévision. Et il y a un journaliste de la télévision qui dit. Pour cette seconde séquence, vous vous dirigez lentement vers le piano où votre accompagnateur vous attend et vous chanterez. Que chanterez-vous, madame ? Et la Castafiore répond « Mais je ne sais pas, l'air des bijoux de Faust, par exemple. » Or, c'est le seul morceau qu'elle interprète dans tous les Tintins.
Oui.
Et ce qui est très intéressant, c'est un rapport de RG par rapport à Hitchcock dans cet album. C'est qu'il y a le combat de la musique... puisque on retrouve il y a du bruit, il y a le perroquet, il y a les gammes qui n'arrêtent pas de faire et l'orchestre du village qui vient chanter une petite aubade au capitaine Haddock, ça énerve.
Il est tzigane aussi qui joue
Les tziganes, exactement, et c'est en rapport en fait ni plus ni moins, il fait remarquer à l'homme qui en savait trop.
Oui, avec le fameux morceau de timbale à la fin qui...
L'autre rapport à Hitchcock, contemporain justement de cet album, c'est le système de la couleur. On voit Trifon, Tournesol, essayer un nouveau système de couleurs. Il y a des couleurs qui pètent aussi dans l'album.
Le Supercolor Trifonard. Ouais.
Exactement. Et il y a aussi...
Celui qui donne du chimie.
Et il y a aussi, justement, il y a le rapport avec le rouge, avec le jaune, qui sont très présents dans l'album, que l'on retrouve dans Sueur Froide. De Hitchcock, là aussi les couleurs ont vraiment leur importance. Il y a plein d'éléments comme ça qu'on redécouvre, mais il faut avoir le bouquin à côté. Si vous n'avez pas le bouquin.
Un bouquin spécialement sur les bijoux de la Castafiore.
Voilà, si vous n'avez pas le bouquin, il faut se lier au scénario, mais on retrouve plein de trucs, plein d'ambiances, c'est assez intéressant. Alors je sais pas s'il y en a qui veulent lancer.
Moi aussi. J'ai aidé à lire avant.
Il y a Pierre Sterckx qui vient de sortir. Tintin Schizo, c'est un album inédit. Donc Pierre Sterckx, c'est un spécialiste en fait de l'art moderne. C'est lui qui a conseillé, c'est un critique d'art. C'est lui qui a conseillé Hergé, qui voulait se lancer dans l'art moderne, et lui a dit mais attendez, votre meilleure œuvre, votre meilleur art, c'est Tintin. Et Hergé en a été complètement déprimé, dépité, etc. Mais il est resté un très très bon ami justement de l'auteur de cet ouvrage, qui là aussi n'a pas eu l'autorisation de reproduire donc des planches intérieures. Et il dit que Tintin, bah, c'est quelqu'un qui est complètement déboussolé. On ne connaît pas son papa, sa maman. Il est journaliste, mais il prend jamais de notes ni de photos. Enfin, à partir de Tintin en Amérique, à sa troisième aventure, il en prend plus. Et c'est quelqu'un qui manque de finir pétrifié dans Tintin au pays des soviets, gelé par le froid, et qui manque de finir pétrifié en statue d'art dans Tintin et l'Alphard, où Rastapopoulos menace de le transformer en statue de César. Ça tombe bien parce que c'est les deux albums qui bordent littéralement les Tintins, et ça fait pas partie des Tintins les plus connus, parce qu'il y en a un, ben on a voulu l'oublier, et l'autre n'a jamais été terminé. Donc c'est assez intéressant à lire. C'est une thèse, hein, voilà. Et Tintin est aussi un iconoclaste qui massacre l'art. C'est-à-dire, il y a l'Alphard où, en fait, il massacre l'art moderne. Il y a l'oreille cassée où il casse le fétiche à Rumbaya. Il y a le secret de la licorne où le capitaine perfore le tableau de son illustre aïeul.
François de Haddock.
Voilà. Le théâtre avec l'irruption du capitaine au moment où la Castafiore est en train de chanter dans les sept boules de cristal. Plein de trucs comme ça qui sont assez étonnants. Donc Tintin Schizo, c'est aux Impressions Nouvelles de Pierre Sterckx. Et juste avant, donc, l'autre bouquin, c'était Lire Tintin, les bijoux ravis de Benoît Peters, là aussi aux Éditions Nouvelles. Ce sont deux ouvrages assez techniques, assez universitaires, mais même pour moi, je pensais avoir lu les Tintins, connaître par cœur et tout ça, c'est pas complètement inutile finalement de les relire, loin de là. Donc voilà. Je m'étends, on en est encore à bande dessinée, il est 12h51. Excusez-nous, hein. Cinéma vous est présenté en Dolby Mono Surround par Thomas.
Ah, maintenant on va attaquer un remake.
Excuse-moi, c'était pour mettre de l'ambiance, donc voilà, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu.
Il s'agit d'Halloween.
Halloween.
Le remake.
Un remake.
Par Rob Zombie.
Le musicien qui est derrière White Zombie.
Voilà, avec Malcolm McDowell.
Non, n'essaie pas de faire la grosse voix, c'est moi qui l'a.
Ah, Brad Dourif et Scott Taylor Compton.
Ouh là là, ça fait peur.
Après avoir assassiné la quasi-totalité de sa famille au couteau de boucher et un dommage collatéral auparavant pour s'entraîner son persécuteur à l'école, le petit Michael Myers s'est interné... Ah, j'ai mis internet sur...
Michael Myers ?
Ouais, il s'appelle Michael Myers, oui.
Bah oui.
Ah, ça vient de là !
Eh oui.
D'accord.
Le petit Michael Myers s'est interné dans un asile sous la direction du docteur Sam Loomis. Il s'évadera.
Sam Loomis.
15 ans plus tard, il s'évadera pour retrouver sa petite sœur, Laurie Strode.
Viens ici, petite sœur, c'est moi qui étais poupée par B.
Bon, alors vous aurez reconnu la trame, hein. Il s'agit du remake du film de 78 de Big John, de John Carpenter, qui a été le film matriciel de tous les films de Psycho Killer. Voilà, le croque-mitaine avec le masque d'ailleurs qui au départ était un masque d'Halloween, enfin un masque déguisement de James T. Kirk, Capitaine Kirk de Star Trek, qui a été remaquillé par à la va-vite par les technicos de Carpenter en blanc, et oh là là, putain, ça fait peur.
Et ils l'ont même pas déposé, ce qui a toujours dégoûté les producteurs par la suite.
Alors ce remake, alors qu'est-ce qu'il vaut? Moi j'ai envie de dire bof. Parce que bon, le début il est tout à fait, il est vachement bien parce que on s'attarde un peu plus sur la jeunesse de Michael Myers, puisqu'il faut savoir que le film de Carpenter commençait avec ce fabuleux plan séquence à travers les yeux du masque du petit Michael Myers qui va poignarder sa sœur, et on s'aperçoit à la fin que c'est un petit garçon.
Thomas vient de faire un spoiler.
Et bon, un spoiler des 7 premières minutes. Ouais. Alors que là, dans le remake, en fait, on voit cette scène mais beaucoup plus tard, puisque on suit un peu plus Michael Myers à l'école. Il est bon, c'est le souffre-douleur de la grosse tête de la classe. On le voit, bon, il est pas heureux chez lui parce que sa mère est stripteaseuse, son beau-père est alcoolique, il est invalide, c'est un gros connard. Sa sœur, elle commence à coucher avec son petit ami. Oh là là, tout ça, tous ensemble, ça fait pas bon ménage. Et donc ce début est tout à fait réussi, puisque on s'attendait pas du tout à voir ça dans le remake, puisque on pensait que justement ils allaient suivre la trame, ce qui va être beaucoup plus le cas par la dans la suite du film. Et donc voilà, bon, le petit Michael, l'héros, il est le personnage, l'acteur qui joue le petit Michael Myers, c'est tout à fait nickel, il y a pas de problème. Et donc c'est l'occasion pour Rob Zombie de planter une symbolique que je crois qui était absente du premier film, c'est-à-dire que dès que Michael met son masque, en fait, il devient un psycho-killer, et dès qu'il enlève, c'est que il est en situation de paix, il enterre l'âge de guerre, enfin le couteau de boucher, et voilà.
C'est comme dans Brésil. Avec le torture, avec le questionneur.
et ensuite, par contre, ça se gâte à partir du moment où Michael est interné dans la zone psychiatrique. Alors déjà, le maton qui le surveille, c'est Danny Trejo. Tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et bon, alors Sam Loomis, bon, c'était dur de succéder à Donald Pleasance. Bon, là, c'est Malcolm McDowell, il est nickel, hein. Super, tu joues sur le même registre que Pleasance.
Il faut prendre des acteurs anglais, je le dis souvent. Voilà.
Exactement. Et là, quand ça commence à se gâter à partir du moment où Myers s'évade, alors là, Rob Zombie essaie de surfer sur les mêmes recettes que Carpenter, sauf que c'est pas du tout ça. Carpenter, si on se souvient bien du premier film, il y a rien qui se passe pendant une heure. Hein,
non.
C'est juste le synthé qui flanque une ambiance de folie derrière, avec juste un mec qui fait un pas derrière un bosquet. Tu trembles, non, voilà.
C'est le coup du chien aussi, quoi.
Je me rappelle plus.
Si, le chien, justement, derrière la rambarde, là, comme ça, quoi. Il marche dans la rue, là.
Voilà. Et
alors, oh mon dieu, un chien!
Alors que là, tout ce qui se passe en une heure, c'est expédié en un quart d'heure. Il n'y a plus du tout de plantage d'ambiance avec musique et tout. C'est vraiment, on fait à vitesse grand V tout ce qui se passe pendant une heure. Par contre, c'est les mêmes péripéties. C'est-à-dire, c'est pour ajouter des trucs en plus, bon, ok. Mais là, c'est les mêmes choses. Alors, toujours les nanas qui couchent, bon, tu sais qu'elles vont crever. La nana qui bouge pas, qui est un peu, je me fais pas sauter comme ça, ben, c'est Laurie Strode, elle va pas crever.
Bah non.
Voilà, donc c'est de toute façon Carpenter avait été attaqué pour ça, son côté réac, tous les jeunes qui baissent ils y passent.
Bah non, ça se faisait déjà, la fille délurée un petit peu salope dans tous les films hollywoodiens d'horreur, elle y passe. Il a rien inventé.
La screaming girl, ouais.
Non, c'est même pas la screaming girl, c'est la fille, tu sais, qui se met. Tu la vois toujours au bout d'un moment, le gimmick, c'est elle se met du rouge à lèvres. Et là, t'as ta sœur qui est à côté de toi qui fait ah, elle va mourir. Super.
Et donc là, voilà, donc le film, il supporte absolument pas la comparaison sur la fin. Il y a juste sur la fin où le film prend un peu de liberté, puisque là où finissait le film de Carpenter, le film de Rob Zombie. Continue un peu plus, mais bon, ça apporte pas grand chose à l'histoire. J'aurais vite fait d'oublier ce film, alors que le film du Carpenter, le film de Rob Zombie, m'a justement donné envie de revoir le film original. Là, quand on est à ce stade-là, c'est pas très bon signe pour le remake. Hein. Bon, alors voilà, bon, y a quelques images fortes dans la première partie, après ça vient vraiment au vulgaire copier-coller sans imagination. Moi j'ai pas vu donc justement les précédents films de Rob Zombie, peut-être que du sport les a vus.
Non.
Bon mais c'est pas grave, hein. Bon, il s'agissait donc du remake de Halloween, le film de Rob Zombie qui est sorti il y a 2 semaines, il me semble, bah, justement pendant Halloween, avec Malcolm McDowell, Brad Dourif, toujours excellent Brad Dourif,
ah, hein, Brad Dourif.
Qui joue le rôle du shérif, hein, qui croit pas Sam Loomis, non mais qu'est-ce que vous me dites, non mais si, lisez mon bouquin, Michael Myers c'est le diable incarné et tout. D'ailleurs il y a une très bonne citation au début du film qui plante bien l'ambiance, c'est les âmes noires sont inoffensives quand elles sont dans le monde des vivants, elles font beaucoup plus peur quand elles essaient de revenir de l'au-delà. Ça c'est, voilà, c'est pas exactement comment c'était écrit, mais ça voulait dire à peu près la même chose. C'est une citation du docteur Sam Loomis. Voilà, donc Halloween de Rob Zombie, et qui est toujours, je crois, à l'affiche.
Ça tombe bien parce qu'il est pile poil 13h, d'ici une trentaine de secondes Donc on va passer à du sport.
Et la coupure musicale, elle est où?
La coupure musicale, elle passe pas, c'est un CD gravé, mon cher ami.
Comment ça, ça passe pas?
CDRW, ça marche pas. Et puis de toute façon, on n'a pas trop le temps, je suis désolé.
Oui, à cause des Tintins, là.
Ah, bande de lourds.
On va laisser le bip passer.
Ouais, ok.
Il est 13h.
Pile poil.
L'heure du sport.
Et ça tombe bien puisque l'on va parler donc des derniers dopés de la semaine. Non, pardon.
Non. La revue de presse, la suite avec du côté du sport, le SoFoot du mois de novembre avec Jean-Michel Aulas en couverture. Et une super grande interview. Ils ont fait carrément 3 interviews téléphoniques. Ils l'ont rassemblé en une seule. Et donc ça donne oh putain, il y a 4-5 pages quoi quand même d'interview. C'est c'est du lourd, hein, de Aulas. Un article très intéressant sur le changement de le virage opéré par Chelsea avec qui s'appelle Israel Vibration, vu que bon bah ça va surtout chercher du côté du pays Israël en fait, hein, donc ça commence à foutre un peu le bordel. Un article aussi sur la vie du nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Éric Guéret. Un article sur le président Borrelli qui n'est plus des nôtres depuis quelques temps là, il est mort il y a pas si longtemps que ça. Le mythique président du PSG, ainsi que toutes les rubriques habituelles, tout ça dans le numéro de SoFoot, hein. Il y a également les petits trucs pas mal et tout. Les cahiers du foot de mois de novembre. Alors c'est un spécial les Verts
Saint-Étienne.
À Saint-Étienne avec vraiment des trucs là, ils y vont à fond les manettes quand même. Ils cartonnent quoi quand même vachement quoi. C'est comme d'habitude. Tiens, ça c'est pour toi.
Merci.
Voilà. Ensuite on était dans le gore et dans le trash juste avant avec Halloween. Ouais. Dans Mad Movies. Alors il y a deux tendances.
Sexe et gore.
Voilà, et t'as deux tendances. t'as le gore, mais t'as également pas mal de sexe avec bien sûr toujours les rubriques habituelles, les films sortis et les films en preview, dont là je vous ai choisi les meilleurs quand même. Alors voilà, le film Russ Meyer. Non, c'est justement celui qui va prendre la suite de Russ Meyer, qui a envie d'être le fils spirituel de Russ Meyer.
Il s'appelle des seins encore plus gros.
Jonathan Yudis. Ouais, mais de ce côté-là, je veux dire, Russ Meyer, il est fait très fort, et donc
c'est pas mal.
Ah ouais, avec Ultra Vixen. Attends, et donc le dossier presque interdit sur ce marqué sexe et gore.
Très bien.
Ouais, très très bien, hein, pas mal, hein, tu vois quoi. Et bon, il y a également un petit dossier sur la torture au cinéma, hein, avec pareil des images tout à fait alléchantes et magnifiques, et ce jusqu'à la fin, une petite double page sur les Tarzan de la jungle.
Ah ouais.
Ah ouais, tranquille. Et le retour de la pin-up, ça faisait plusieurs moments, hein, et là carrément, bon, Christina Lindbergh, elle est pas comme Rose McGowan, elle a dit j'enlève tout, il y a pas de problème, ils m'en voudront pas. Et moi je trouve qu'elle a vachement raison. De toute façon, tout ça dans le numéro de novembre de Mad Movie. Et également, j'oubliais le long dossier consacré à Jeffrey Combs, réanimateur.
Oui, ah oui, le mythique en plus.
Yes. Série TV, le nouveau numéro est sorti. Alors ça c'est
je voulais juste dire une chose, oui. Du sport, puisqu'on en est aux séries télé. Le tien Sinley qui en a un peu marre des répliques à 2 balles, on veut passer aux répliques à 3 balles.
D'accord.
Voilà, il y a la grève des scénaristes à Los Angeles, alors moi aussi, je vais me mettre en grève.
Non, d'accord, ok. Alors série TV, c'est le numéro 37 donc, hein, c'est pour la période décembre jusqu'en janvier. Avec toujours d'excellents. Alors là, moi j'aime bien cette revue parce que bon, au niveau rédactionnel quand même, ils font vachement d'efforts. Et ils trouvent le moyen de débaucher, non pas débaucher, mais d'interviewer des gens qui sont vachement intéressants. La preuve encore dans ce numéro qui est consacré à la rentrée 2007, hein, c'est-à-dire les nouvelles séries aux États-Unis. Un petit article sur Stargate qui va s'arrêter très bientôt. Là, ils en sont déjà pratiquement au 212e épisode de Stargate.
Série la plus longue après.
De science-fiction, ils ont battu le record de toute façon.
Non, c'est Doctor Who, mais eux, ils étaient en nombre de saisons.
Oui, non, mais à la suite.
À la suite,
sans interruption,
oui.
Tu vois.
Ouais, et ensuite, je crois qu'ils ont dépassé sans problème même tous les spin-offs de Star Trek.
Ah oui, oui, sans problème, oui, tous les Star Trek. Hein, oui, parce que le plus grand, le plus long Star Trek, c'est 8 saisons, donc ils sont loin devant. Hein,
ouais, The Next Generation.
Voilà. Sinon, alors du côté des interviews, alors là, vraiment très bien. Alors un super dossier sur Torchwood. On en reparlera un petit peu plus tard.
Énorme.
L'interview de John Barrowman, pas mal. Mais surtout, l'interview de Edward Alan Bernero et de Joss Whedon également. Hein, quand on demande qu'est-ce que tu fous et tout, tu fais plus de télé, non? Et ben maintenant je fais des comics, donc ça va, tranquille. Il essaie de relancer un petit peu la machine en ce qui concerne ses autres séries dérivées, à savoir Firefly et Serenity, mais bon, ça a pas trop l'air de marcher pour le moment.
Ouais,
enfin,
bah,
bon,
ils ont eu beaucoup de difficultés, je crois. Mais par contre, Firefly, ils sont en train de refaire le mastering en HD. Donc ils refont les tournages, etc. Et du coup, les tournages ont été faits en HD de base, puisque c'était du film. Mais les trucages sont refaits en HD. Et ils espéraient que du coup, ça incite la Fox à produire une deuxième saison tant attendue par les fans. On verra quoi.
Voilà. Et il y a surtout une interview qui est vachement intéressante, c'est celle du producteur de la série Esprit Criminel, Edward Alan Bernero, qui est également avec John Wells, le créateur de la série Urgence. Il a bossé également sur Brooklyn South avec Steven Bochco, et également un petit peu sur New York Police Blue. Et là, c'est donc sa nouvelle série qui s'appelle Criminal Minds.
Esprit criminel.
Excuse-moi. Et là, il dit des choses vraiment très 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 intéressantes à propos de la télé, à propos de son boulot, à propos de la série en général. Hein. Alors bon, ce dont je vous avais déjà parlé hein, est confirmé. Il n'y a pas de problème jusqu'à la fin de la saison 2 de Criminal Minds. C'est Money Patinking. Mais comme il avait des velléités financières un petit peu trop importantes, la chaîne carrément lui a dit bon bah t'es pas content, tu dégages. Ils avaient déjà fait ça avec George Hitz et Georgia Fox, des experts, tu sais, à un moment,
ils
voulaient une augmentation et tout. Il a dit, ah bon, vous êtes d'accord, bah, dégagez du générique, on verra si ça se passe mieux. Et puis bon, ils sont rentrés dans le rang. Money Patinking, bon, c'est quand même un autre rang, on va dire, hein. Money Patinking, c'est quand même le niveau au-dessus. Lui, il a fait pareil, ça a pas marché. Bon, bah, on va pas le plaindre non plus. Il doit pas être à plaindre, à mon avis. Il pourra rebondir. Et par contre, là, ce que dit Edward Alan Bernero sur la différence entre la télé aux États-Unis, la télé par câble et les networks est vachement intéressante. Hein. Alors, je le cite, quoi. Alors, il dit, j'essaye de m'expliquer pourquoi les séries du câble, style HBO, Showtime et tous les autres, paraissent tellement meilleures que celles des networks, les grandes chaînes hertziennes, RBC, CBS, NBC. Et je crois vraiment que c'est à cause de la publicité. Sur les networks, nous sommes tenus, et là, il parle en tant que scénariste, hein, justement, on parle de crise des scénaristes, nous sommes tenus par une structure artificielle en 6 parties avec une introduction suivie de 5 actes, hein, c'est-à-dire l'épisode de 52 minutes.
Suffit de regarder les rues de San Francisco, vous comprendrez bien justement les différences et du coup vous repérerez les fondus au noir.
Ouais, et il faut donc que toutes les 8 minutes, l'histoire atteigne un point culminant qu'on puisse expliquer et amplifier au retour de la page publicitaire. Nous sommes constamment en prise d'élan et ce n'est pas un style narratif très naturel. Bon voilà, tout est dit, quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc tout ça, c'est dans ce nouveau numéro de série TV, le numéro 37. Un petit peu de télé à présent, bon pas trop. Hein, y a pas, je t'avais dit hier qu'il y avait quelques petits trucs inédits. Mais en fait, non, il y a une seule série inédite à l'affiche cette semaine, c'est sur M6. Vendredi prochain.
Attends, on a loupé Jericho.
Jeudi prochain, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Alors, non. Putain, j'ai même pas marqué le jour, hein, tu vois, quoi. Tellement je suis nul. Non, c'est ce soir, voilà, c'est ce soir. Par contre, il y a Heroes. Si vous avez loupé le début, ou si vous avez loupé un petit peu la série, vous avez loupé les épisodes, c'est rediffusé à partir de lundi sur 13ème rue à raison de 3 épisodes. Voilà, alors alors Kidnap, j'ai pas marqué le jour, c'est trop
marrant. Il y a Jericho en ce moment qui passe le
Jericho
samedi.
C'est le samedi, ouais. Hein, ce soir, donc les épisodes 4, 5 et 6, L'Inconnu, puis Alerte, puis Vivre Ensemble. Alors, moi je l'ai complètement loupé, je suis désolé, mais enfin bon, j'étais pris par les
Bon, c'est très simple, hein, le début c'est le fils qui revient après 5 années passées à l'armée dans une petite ville dont le papa est maire, une petite ville de 2000 habitants, perdue au milieu des champs, à une centaine de kilomètres de Détroit. Donc il vient, il s'aperçoit que sa copine s'est mariée, qu'il n'avait pas laissé de nouvelles depuis un bail, etc. Et au moment où il va repartir, explosion nucléaire sur Détroit. plus d'infos.
Non, sur Denver, Denver.
Denver, pardon.
Ouais, ouais.
Plus d'infos, plus rien, on ne sait rien et ils sont lâchés dans la nature. Et là, il y a eu les 48 premières heures qui sont racontées. Et après, au fur et à mesure, on va aller jusqu'à Nuts.
Voilà, donc Jericho, là, c'est ce soir sur M6, 3 épisodes, donc hein, c'est le. La triple série du samedi soir. Ce soir également sur TF1 dans une New York unité spéciale. Je me demande si j'ai pas déjà vu celui-là, quoi, mais peut-être pas. Il y a deux épisodes de la saison 6, Bras de fer et Coupable d'amour. Bras de fer moins 12 et Coupable d'amour moins 10. Et par contre, dans l'un des deux, mais je suis incapable de vous dire dans lequel, il y a comme guest star un certain Matthew Modine.
Ouais.
Sinon, la suite des séries avec donc... putain, alors Kidnap, ça me fout les boules. vraiment, quoi, je te dis. Quoi.
On le mettra en complément sur le site.
Sur le site, oui.
Voilà, ok. Donc Kidnap, c'est cette nouvelle série qui sera diffusée par M6. C'est jeudi prochain donc à partir de 21h40. Alors qu'est-ce que ça raconte? Alors Kidnap, c'est une série qui a pas marché aux États-Unis. L'ensemble de la première saison a été tourné, mais la série n'a été diffusée que sur 13 épisodes. Et au bout de 13 épisodes, la chaîne a dit bon, il y en a marre, il y a ras le cul, on comprend rien, on arrête les frais. Mais par contre, on espère que M6 va pas faire pareil, il va nous diffuser les 8 épisodes restants.
C'était déjà arrivé, hein. Il y a eu des séries comme par exemple The Tick qui ont été diffusées intégralement en France et jamais aux États-Unis en intégralité.
Profite aussi, quoi. Alors, ouais, Kidnapped, c'est créé par Dave Greenwald qui nous avait fait d'autres bonnes séries, hein, telles que Angel par exemple. Il est co-créateur de Angel avec Joss Whedon. Ça raconte l'histoire d'un détective privé qui va être chargé de retrouver un enfant kidnappé, mais par contre comme il s'agit de personnalités influentes, le FBI met aussi le bout de son nez dedans et ça commence à foutre vraiment le bordel. C'est interprété par Jeremy Sisto, Dana Delany, Tim Hutton, Will Denton et Michael T. Williamson. C'est le Black là qu'on avait vu dans Boomtown, là, tu sais, l'inspecteur Black là, qui fait sa liste là, de trucs à faire et tout, quoi. Ça a l'air très très bien foutu, bien achalandé. C'est le genre de série que c'est comme 52 heures. Il faut que tu prennes depuis le début et que tu suives l'histoire, sinon t'es largué, c'est même pas la peine. C'est pas un one shot, hein, comme l'habituelle série policière où tout est résolu en un épisode.
Oui, comme 24 heures, tu vois.
Voilà, là non, il faut quand même un petit peu suivre, donc il faut prendre la série depuis le début. Ouais, c'est jeudi prochain, tout simplement parce que c'est diffusé après l'épisode de. J'ai pas le temps, Prison Break.
Prison Break.
Voilà. Ensuite, on continue un petit peu demain soir. Alors, toujours cette excellente série sur Paris Première qui s'appelle Shark et qui, au début, est un peu brinque-ballante. On sait pas trop, il y a du mal à poser un petit peu les différentes situations, les différents personnages qu'ils soient raccord par rapport aux histoires. Mais au fur et à mesure des épisodes, on se laisse vraiment prendre. Hein, déjà, on se rend compte que bon, James Woods, en tant qu'acteur, il te troue le cul, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein, il arrive à te faire croire des trucs incroyables. Enfin, bon, c'est vraiment un très très grand acteur. Là il le démontre encore, hein, y a pas de problème. Dans cette série, il y a également tout son crew, toute son équipe qui est assez intéressante. Hein. Bon, généralement des acteurs de télé. On remarquera par contre la prestation de Raymond Cruz qui en fait on l'a vu très jeune dans un blockbuster qui a vachement marché. Et qui a donné une série qui a été qui est la série détentrice du record de longévité. Stargate, le jeune alien aux cheveux longs là avec les dreads là, tu sais,
qui voulait jouer avec le flingue du colonel.
Voilà, et c'est Raymond Cruz qu'on retrouve donc en faisant partie d'équipe de Shark qui a enregistré une nouvelle venue, hein, c'était dimanche dernier, on avait pu le voir. On avait un petit aperçu dimanche d'avant, mais dimanche dernier donc dans les épisodes 5 et 6 ou 6 et 7 je crois, la venue de Henry Simmons qui lui a auparavant officié dans New York Police Blue. C'est le grand Black là qui fait équipe avec Medavoy là et qui à un moment il se tape la district attorney Black là, Garcelle Beauvais Nylon, tu sais. Ouais. Et donc qui rejoint également l'équipe de Jonathan Stark, le Shark de l'enquête financière, de l'enquête policière, pardon, tout ça donc sur Paris Première demain à partir de 20h50. Sinon, je voulais quand même vous dire un tout petit mot hein, de Guerre et Paix qui passe sur France 2 là mardi prochain. Ce sera le numéro 2 hein, de ce gros blockbuster télévisuel, grosse, énorme, incroyable coproduction. Non, tri-production, hein, c'est par les Français, les Allemands, les Italiens. Il y a un petit peu d'anglais également qui s'y sont mis hein, pour nous faire ce cet énorme pavé hein, qui est tiré d'ailleurs du bouquin qui est que c'est également un pavé hein, le bouquin de Tolstoï, Guerre et Paix, c'est énorme quoi. Et bon, casting 3 étoiles avec tout ce qui se compte de mieux au niveau télévisuel. Mec, dans les pays précités, hein, c'est-à-dire Alessio Boni pour l'Italie, Malcolm McDowell, Brenda Blethyn pour les Anglais, Alexandre Bayer pour les Allemands et pléthore donc d'acteurs. Dans cette reconstitution de Guerre et Paix, c'est mardi prochain sur France 2 à partir de 20h50.
Je t'interromps du sport dans juste pour signaler quand même la présence de Loïc. Pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, donc Radio FMR est une radio qui diffuse à mi-temps sur la région toulousaine. Il y a une autre radio qui diffuse à mi-temps sur la région toulousaine, c'est Radio Booster. Salut Loïc, tu vas bien ?
Ça va et vous ?
Ah mais très très bien. Je me souviens que quand tu étais au-dessus d'une boîte de nuit, nous on était dessous, toi t'étais au-dessus, mais c'était pas les mêmes boîtes de nuit. Et donc ça va être nos colocataires à côté. Donc si vous entendez du bordel lors des prochaines émissions,
non, ça va, c'est calmé sur le son quand même, hein, 10 ans. On n'est plus dans la discothèque là.
D'accord. Bah, écoute bien à toi en tout cas. Heureux que l'on soit à nouveau, heureux que tu sois voisin avec nous quoi. Et puis voilà, donc ils vont partager le B, le studio B. Nous on verra si on reste sur la radio en tout cas. Du sport.
Ouais, on continue avec toujours la semaine anglaise de Canal+, qui nous propose toute cette semaine des sujets divers ayant trait à l'Angleterre, mais à ne surtout pas louper, c'est mercredi prochain sur Canal+. Le film, c'est un téléfilm, hein, ça a été écrit pour la télé, hein, après c'est sorti au ciné parce que bon, bah, ça a cartonné à fond les manettes. The Queen, la reconstitution de Stephen Frears, avec Hélène Mirren dans le rôle principal, dans le rôle de la Queen Elizabeth. Elle a d'ailleurs obtenu l'Oscar, hein, pour l'Oscar de la meilleure actrice pour cette interprétation. Il y a également Michael Sheen, James Cromwell, enfin pareil, un casting 5 étoiles. C'est anglais, tu peux y aller tranquille, ça roule à fond les manettes. Donc c'est mercredi prochain sur Canal+, à 20h50, The Queen de Stephen Frears avec Hélène Mirren. Bon, jeudi, alors Prison Break, juste avant Kidnapped. Et pourquoi? Bah parce qu'il n'y a plus qu'un épisode de Prison Break le jeudi. Et pourquoi? C'est parce qu'on approche de la fin. Jeudi prochain, ce sera le 21e épisode de la saison, c'est-à-dire l'avant-dernier. Ah. Oh là là, que va-t-il se passer?
Mais ils en sont où là?
Mais vont-ils se faire choper? Mais ça, on ne sait pas. Et bah alors les deux frangins, ils sont partis au Panama, d'accord? Et du coup, il y en a plein d'autres qui partent aussi au Panama. Il y a Bagwell là, qui était parti au Mexique, mais enfin bon, il s'est fait embrouiller avec son sac plein de biftons, donc il a un petit peu les bollocks. Il y a également le chef des matons là, qui s'est fait virer, qui s'est fait foutre au trou. Oui. Là, il est sorti pour récupérer les autres. Là, il a récupéré Sucre, donc tous les deux, ils sont chargés de retrouver Bagwell, mais bon, justement, quoi, ça fout un petit peu le bordel. Et dans la dernière scène du dernier épisode de jeudi dernier, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on les voit sur ce magnifique bateau qui s'appelle le Christine Rose, un magnifique voilier hein, qui a été loué, bien sûr, avant que Michael Scofield ne rentre au trou, hein, bien ouais. sûr, hein, ça fait partie du plan, hein, toujours. Et à un moment, ils emménagent et tout, et à un moment, Lincoln, il ressort du bateau et Michael a disparu. Mais qu'est-il allé faire? Est-il allé téléphoner à Sarah? Car Sarah, eh bien, s'est fait choper par l'agent Mahone. Et là, c'est pas triste, mais le récit quand même a s'échappé, quoi. Remarque. Bon, on verra ça. Donc jeudi prochain, un seul épisode. Et justement, c'est ça que je trouve pas mal, c'est que bon, bah, c'est dû uniquement à une programmation, hein, un astuce de programmation. Mais enfin, bon, ils se rendent compte peut-être, et on va peut-être se rendre compte en ne diffusant qu'un seul épisode par semaine, que l'attente va peut-être un petit peu plus prenante pour ces deux derniers épisodes de la saison 2 de Prison Break. Donc jeudi prochain, un seul épisode, l'appât du gain, l'avant-dernier de la saison 2 de Prison Break. Et alors, on termine la semaine en beauté, comme d'habitude, avec Torchwood, donc cette déclinaison, cette série dérivée, cette spin-off
de Doctor Who. Hein, t'étais pas là, toi, quand j'avais parlé de l'histoire de Torchwood.
Bah, mais Xavier m'a fait le topo à chaque fois que je le vois.
Ok, donc
pas de soucis,
pas de problème. Alors ça passe sur NRJ 12, là ils ont quand même chopé le gros lot, hein, parce que bon, la série...
C'est inécoutable au casque, ils mettent un traitement de son derrière, si vous les écoutez au casque, ça fait tout le temps, c'est inécoutable, on est obligé de regarder à la télé.
Bah ouais, mais ça suffit
c'est...
largement.
Ouais, hein. Mais c'est le son NRJ, c'est insupportable.
Bah ouais, mais bon, qu'est-ce
c'est insupportable,
qu'est-ce
c'est massacre tout.
Alors pour ceux qui auraient loupé le coche, parce que bon, bah ils ont passé les épisodes plus ou moins dans le désordre, mais quand même avec un semblant d'ordre chronologique, on va dire, hein. Alors la différence de Doctor Who, la série fantastique de science-fiction, peut vous emmener absolument n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle dimension, n'importe quel espace-temps, sans problème. Dans Torchwood, eh bien, c'est l'histoire d'une station centralisée à Cardiff. Et,
il se passe rien à Cardiff.
qui est également délimité dans le temps, hein, c'est-à-dire c'est la période contemporaine, hein, 21e siècle, et voilà. Et donc on ne bouge pas trop. Si, ils bougent quand même un petit peu, quoi. Il faut dire ce qui est. Mais ils sont surtout chargés, eh bien, de veiller à ce que les habitants de Cardiff et du monde soient sécurisés par rapport aux menaces extraterrestres et aliens. Et au niveau des histoires, là, c'est vraiment pas triste, là, c'est vraiment très très bien.
C'est largement plus noir. C'est largement plus noir que Doctor Who, c'est clair. Hein,
ouais. L'épisode de hier soir, le dernier là, avec les cannibales là.
Je l'ai pas regardé. Je l'ai pas enregistré en plus.
Attention là, hein. Attention. Hein. Eh ben, on a droit à une séance de rattrapage à mon avis, car NRJ 12 vendredi prochain vous propose à 20h45 de recommencer la série Torchwood avec 3 épisodes, le numéro 1, le numéro 2, suivi du numéro 4.
Chronologiquement, attention, ça se passe après la seconde saison de Doctor Who. Mais on peut la commencer à partir, je crois, de l'intersaison. Entre la saison 1 et la saison 2, il y avait une spéciale de Noël qui est passée ce matin sur France 4, qui n'est pas sur les DVD qui sont sortis en France. On est obligé d'acheter le DVD.
La mauvaise,
anglais.
Celle-là.
Ah, celle-là, ouais, je l'ai vraiment mauvaise. Mais donc, ça a été diffusé ce matin sur. Sur France 4, et c'est là où vous avez l'introduction en fait à Torchwood.
Voilà, c'est ça, hein, parce que bon, ça suit plus ou moins l'histoire de Torchwood au départ, suit plus ou moins le cursus d'une des protagonistes qui va rentrer justement dans cette unité, ouais, Torchwood.
C'est le même départ d'ailleurs que pour Doctor Who.
Voilà, donc c'est assez simpliste, mais par contre au niveau des histoires c'est vraiment très très fort. Très très fort. Là encore, les grands Britons, ils nous mettent une grosse claque dans la gueule avec Torchwood. Attention, c'est quand même très violent par moments.
C'est
moment,
très, hein. C'est très violent, mais par contre, il y a du humour.
Il y a vachement d'humour, mais également pas mal de trucs un peu sexe ou un petit peu déviant, comme ça, on va dire. On en dira pas
attends,
plus.
Hein. Ouais. Queer as a folk.
Ouais. Non, mais il couche avec des aliens. Enfin bon, c'est... faut y aller, quoi. Vraiment, il faut trouver des trucs pas possibles. Donc. Vendredi prochain, Torchwood, ça recommence avec Tout change, l'épisode numéro 1, moins 10. Premier jour, l'épisode numéro 2, moins 10. Et Femme cybernétique, l'épisode numéro 4, qui est lui, moins 12. Et c'est normal parce qu'il est, sur la fin, il est vachement trash, quoi. On termine avec 13ème rue, je vous en avais parlé un petit peu avant parce que, ça fait 10 ans, hein, que cette chaîne existe, 13ème rue. Donc, elle vous propose une grosse semaine avec un gros raout. En fait, non, même pas, quoi, tu vois, y a pas grand chose et tout.
Les rediffusions des envahisseurs.
Non, alors il y a Thomas Hugues qui fait un truc super. Il est un petit peu affilié à la 13ème rue. Il a déjà fait quelques dossiers documentaires et tout.
Il pantoufle, comme on dit.
Ouais, il pantoufle à fond les manettes, quoi. Alors je vous ai fait la semaine de 13ème rue, tout simplement, quoi, pour vous donner une idée, quoi.
Bon, donc voilà,
vous rendre compte que c'est pas top, quoi.
Si vous avez manqué la fin de 13 dans les albums BD, là, bah voilà, vous avez la semaine de 13ème rue, c'est guère mieux.
Voilà. Alors ce soir, c'est téléfilm français avec un thriller de Gérard Cuc de 2002 qui s'appelle La Femme de l'ombre, un moins 10 quand même, avec dans le rôle principal Sophie Broustal et Olivier Pagès. Demain, 20h45, alors ça commence toujours grosso modo à 20h45. Demain, 20h45, un bon film quand même de Wolfgang Petersen, En pleine tempête, le film de pêcheur avec Georges Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane et William Fichtner. Eh oui.
suivi à 22h50, et là, attention, de Opération Eagle One, moins 12, hein, de Brian Clyde 2006, avec Mark Dacascos et Rutger Hauer.
Ah, il fait encore des films, lui.
Ouais. Lundi, alors lundi, c'est Heroes, hein, j'en ai parlé avant, donc, hein, les trois épisodes de Heroes. À noter que, après les trois épisodes de Heroes, lundi soir, à minuit, démarre, eh bien, la rediffusion de la série The Shield, également sur 13ème rue, donc bon bah, pour ceux qui ont tout loupé. Mardi, j'en ai parlé donc avant, quand on parlait de 13, c'est une soirée spéciale 20h50 avec La Mémoire dans la peau. Le film avec Matt Damon et toute la bande là.
Ça vous Cooper, permettra de revoir le premier tome de 13.
Voilà, à 22h45, reportage au Paris New York Film Festival avec Thomas Hugues. Bah ouais, on peut se faire payer des voyages gratos pour de. Pour New York, on va en profiter quand même. Et à 23h, surtout depuis qu'on est célibataire.
23h15. Oh le salaud!
Il fallait que je la place. 23h15, 13, Le secret d'une saga. Donc, un documentaire d'une heure sur cette saga de bande dessinée. Mercredi, là, c'est du lourd, c'est du très lourd. Et c'est normal, c'est parce qu'il y a Wesley Snipes, Nuclear Target de Marcus Adams, avec également Emma Sams. Si, si, c'est vrai. Et suivi de The Shield, donc la saison 1, épisode 3 et 4. Jeudi, là, un très bon film, très bon film, très bon film, qui détruit un petit peu comme ça, qui est qui auto-parodie, où le réalisateur s'auto-parodie, l'acteur principal s'auto-parodie également. C'est un pur bonheur, quoi. Last Action Hero,
j'y pensais aussi.
Bah ouais, avec cette description, quoi, je sais pas, quoi. Donc,
rock and roll.
À 20h45, suivi de Heroes, donc la relief des épisodes 1, 2 et 3. Et vendredi, comme d'habitude, New York District, hein, la saison 13, épisode 3 et 4, suivi de un épisode de Brotherhood, voilà, pour la semaine sur 13ème roue.
Et il y avait un portrait sur Hero qui était sorti dans Weird. Enfin, l'acteur qui joue Hero, et figurez-vous que ce mec, il a un doctorat en mathématiques, en physique et en théâtre. Et c'est un gros spécialiste des effets spéciaux.
Ouais,
c'est un connard, quoi.
Il bossait pour ILM. ILM, hein.
Pour ILM, il a fait des trucages sur plein de films et tout. Et en fait, il a commencé sa première apparition télé, je crois que c'était dans Scrubs. Et il est devenu l'égérie de OLPC. C'est les portables à $100 pour les enfants du tiers-monde. Donc c'est lui qui sera le porte-parole officiel. Donc voilà, moi je trouvais que c'était un joli clin d'œil. Rien de plus à rajouter, mais 13h26 minutes, je pensais qu'on allait déborder largement plus. Mais du sport, lui, il est pressé, donc.
Ah bah, je suis concis.
On y va. Avec juste pour rappeler que la semaine prochaine dans l'agenda, ben d'abord cet après-midi à partir de 15h, donc d'ici une petite heure et demie, et ben il y aura en dédicace Benjamin, le dessinateur de Orange One Day and Remember aux éditions
Chiaopan.
Donc c'est au salon des éditeurs de Midi-Pyrénées et c'est donc à l'Hôtel Dieu. Il sera aussi présent demain. Donc nous on ira le voir par plaisir. En tout cas, et saluer Christine, Patrick et
Yann.
Oui, puisque Yann est meilleur copain et traducteur officiel. Voilà. Accessoirement, la semaine prochaine, c'est le 21e salon de la bande dessinée à Colomiers. Affiche de Jacques Ferrandez et thème autour du jazz. Et puis voilà, c'est tout ce que l'on peut annoncer pour l'instant. Et je reprends mon conducteur. Thomas, peux-tu s'il te plaît nous faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission supplément Weekend numéro 134 en cours de route?
134 déjà. Eh bien, on a eu des news qui ont annoncé la naissance du petit Virgil, qui rejoint ainsi l'équipe. Une grosse revue de presse, BD sur 13, des comics, du Mad Movies et des séries télé. Du manga pour public averti, de la Formule 1 BD, des bouquins sur Tintin, une chronique qui traîne en longueur sur Maliki, un remake de Croque-Mitaine, de la série TV, plein, un jeu de mots bidon autour de 13 et 13ème rue, et un petit débord de 26 minutes.
Oh, on a fait pire, non d'une tranchée de Première Guerre mondiale, ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser nos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur notre site web supplémentweekend.tk. Vous tapez sans les accents, sans les tirés, supplémentweekend.tk dans votre
TK,
internet.
TK.
Voilà. Dans votre Internet Explorer ou dans votre Firefox, et vous tomberez directement dessus. Vous pouvez même réécouter toutes les anciennes émissions. On fait beaucoup d'efforts sur nos archives de ce côté-là. Enfin, presque toutes. Oui. c'est arrivé. La suite des programmes sur Radio FMR avec votre cahier sportif de suite. À partir de 17h Big Bang, 18h Vie d'ordure, 19h Happy Hour, 20h Last Hétéro Experience, 21h39 Love. Et nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Voilà, même heure, même fréquence. Donc, ciao, bye bye.
Ciao.
À plus. Et de suite, ça c'est du sport.